Espace 2, Annick Chuin.
Morituri te salutand, ceux qui vont mourir te saluent. L'expression des gladiateurs est restée célèbre, mais l'institution romaine qu'ils incarnaient est moins connue. Bienvenue à vous, bienvenue dans les temps qui courent. La gladiature, c'est le mot du jour. Apparu dès le 3e siècle avant notre ère, à Rome, les combats singuliers entre esclaves ou prisonniers de guerre se sont progressivement transformés en une véritable institution au sein d'écoles de gladiateurs, à l'entraînement sans doute très difficile et à l'issue, on le sait, incertaine. Dans La mort en face, paru chez Actes Sud, l'historien Éric Tessier, qui enseigne à l'université de Nîmes, nous entraîne dans un univers d'une grande complexité technique, un univers dont la dimension politique, mais aussi économique et sociale, était considérable. Car les jeux du cirque, malgré les déformations du cinéma hollywoodien, faisaient ou défaisaient les puissants de l'Empire. Avec Christian Tchoka, nous plongeons dans l'arène.
Éric Tessier, réfléchir à la gladiature, c'est d'emblée suivre vos conseils, c'est écarter, me semble-t-il, deux obstacles. C'est d'abord l'approche morale que les chrétiens ont développée dès le 4e siècle de notre ère, condamnation de ces combats singuliers, et puis de l'autre côté, c'est l'imagerie hollywoodienne qui nous empêtre beaucoup, même si certains films récents, je pense à Gladiator, étaient de très bons spectacles. Une fois qu'on a écarté ces deux écueils, comment peut-on vraiment aborder cette gladiature sur plusieurs siècles ?
Mais justement, c'est le problème d'un phénomène qui n'est pas limité à quelques décennies, mais qui court donc sur 8 siècles. Et un phénomène donc qui est, au cours de ces 800 ans, c'est un peu comme si nous on remontait aux croisades, mais la société a changé depuis, donc la société romaine a changé également, et donc ce phénomène donc a évolué. Donc après, il faut essayer donc, en tenant compte de ce caractère évolutif, de s'appuyer sur les différentes sources que nous pouvons avoir, les sources antiques. Il y a la littérature, on a l'épigraphie, on a surtout l'iconographie. L'idée étant de faire donc un corpus le plus complet possible, afin d'avoir une vision la plus juste possible de cette gladiature, et notamment de la gladiature que j'appelle technique, celle pour laquelle on a plus de sources, c'est la gladiature de l'apogée de l'Empire, donc du 1er siècle avant jusqu'au début du 3e siècle après. On a un véritable phénomène de société qu'il est important d'aborder, comme vous l'avez dit, sans a priori, ni moralisateur, ni hollywoodien, parce que c'est vrai que les choses ont souvent été brouillées sur ce dossier-là.
Nous reparlerons, Éric Tessier, de ces imageries modernes. Mais comment a-t-elle commencé, cette gladiature ?
Alors si on remonte véritablement aux origines, elle commence chez Homère, elle commence sur des combats sacrés, des combats rituels à l'occasion de cérémonies funéraires, où l'on a donc pour la mort de Patrocle effectivement un premier duel qui est volontaire entre deux Grecs qui veulent honorer donc le personnage qui vient de mourir. On la retrouve ensuite en Italie du Sud, où elle illustre des tombes à Paestum, où on voit là aussi ces combats funéraires qui sont là encore probablement donc des combats entre volontaires, où le sang coule, qui peuvent sans doute être à mort. Et ensuite, donc, on la retrouve chez les Étrusques et enfin chez les Romains. Donc, elle commence pour les Romains, donc 3 siècles avant Jésus-Christ, mais elle s'appuie sur un substrat plus ancien et elle va courir jusqu'à la fin de l'Empire romain.
C'est très important peut-être de situer justement les différentes peuplades qui ont pu avoir recours à ces rites funéraires. Vous situez ça donc dans le monde grec. Est-ce que les autres civilisations ont pratiqué la gladiature ?
En tout cas, une forme de gladiature dans le sens le combat à vocation funéraire, rituelle, c'est quelque chose qui doit plus ou moins donc intéresser tous les peuples de la Méditerranée. On a quelques traces iconographiques chez les Ibères, on pense aussi que les Celtes, eux aussi, devaient pratiquer ce genre d'activité. C'est toujours le problème donc en histoire, lorsque l'on a des peuples qui ne nous ont pas laissé d'écrits et qui nous laissent parfois très peu d'images. Donc ça, déjà, certainement, ça fausse notre regard. L'avantage donc pour les Romains, c'est qu'ils nous ont laissé à la fois des images et des écrits, et donc on a cette vision de la gladiature romaine, mais une chose est certaine, ce n'est pas les Romains qui ont inventé la gladiature. Par contre, c'est les Romains qui ont développé ce rite qui était certainement très partagé donc, autour du bassin méditerranéen.
Avec une question centrale, si le rite est funéraire, c'est mettre à mort des combattants singuliers pour honorer un mort. Cette mise à mort a-t-elle lieu avec des prisonniers de guerre, par exemple ?
Alors ça va dépendre certainement des périodes. Je pense qu'à l'origine, si on prend le texte d'Homère, il est certain que c'est un combat héroïque entre volontaires qui veulent éventuellement verser leur sang pour honorer donc le défunt. Et on voit donc dans Homère qu'il faut que le public sépare les combattants pour justement qu'ils n'aillent pas jusqu'à la mort. Ensuite, à un moment donné, on va passer effectivement à des combattants qui sont des prisonniers de guerre, avec Hannibal par exemple, qui après son passage des Alpes organise donc un combat à mort entre prisonniers de guerre qu'ils viennent de faire. Mais on voit justement que ces hommes-là qui sont des prisonniers de guerre sont contents. On voit comme un privilège le fait de pouvoir gagner leur liberté en combattant à mort, en tuant éventuellement un de leurs concitoyens, pour éviter justement l'esclavage d'une manière honorable. Et même si l'on meurt, il vaut mieux mourir en combattant plutôt que de mourir comme un esclave. On a souvent donc victimisé les gladiateurs. Il faut voir quand même que ça peut être une échappatoire intéressante, aussi bien pour un homme libre que pour un esclave, suivant les périodes.
Et ça, c'est une période, comme vous venez de le situer avec Hannibal, qui est quand même ancienne, donc quelques siècles avant notre ère, Éric Tessier. Une autre question qui a pu se poser, ritualiser des combats comme ceux-là, avec des issues fatales ou pas, on va le développer, est-ce aussi un substitut de sacrifice humain ?
Je ne pense pas véritablement. Je pense qu'il y a d'autres enjeux qui sont derrière ces combats. Il y a surtout l'idée du héros, l'idée donc de montrer sa force, l'idée d'honorer un défunt. Les historiens sont à présent plutôt d'accord pour dire que ce n'est pas véritablement un substitut de sacrifice humain. Il faut voir aussi qu'on a tendance justement peut-être à exagérer le caractère morbide de la gladiature. Je pense qu'à toutes les époques, on devait souvent se satisfaire de verser le sang d'une blessure, pas forcément de la mort. Le changement, c'est sûr, c'est lorsque les Romains donc, vont optimiser, on va dire, les choses, l'élargir, avec des combats qui ne concernent plus que deux ou trois couples, comme c'était le cas à l'origine, mais parfois des centaines de couples de gladiateurs. Donc là, on arrive dans une période, on est au milieu du deuxième siècle avant, début du premier siècle avant Jésus-Christ, une période donc où là, la gladiature prend une envergure très importante et qui va justement arriver jusqu'à un problème. Le problème, c'est la révolte de Spartacus. Spartacus montre bien que justement que ces gladiateurs ne sont plus du tout volontaires, qu'ils veulent échapper donc à un sort qui les condamne presque certainement. Et donc cette fin de la gladiature, que moi j'appelle la gladiature ethnique, la gladiature où on prend des prisonniers de guerre qui combattent sous leurs propres équipements pour consacrer justement la victoire de Rome, pour présenter dans finalement un rituel aussi un peu patriotique la victoire de Rome sur les barbares, et bien cette gladiature ethnique va devoir évoluer après la révolte de Spartacus qui a fait très peur aux Romains. Ça a été très difficile pour eux, quoi.
Alors c'est une césure, une rupture et un choc pour cette république romaine que la révolte de Spartacus. On la situe, hein, 73 avant notre ère, pour avoir quelques repères. Éric Tessier, j'aimerais m'arrêter tout de même sur cette gladiature ethnique, comme vous venez de la retracer. Elle est importante avec un autre terme sur lequel vous insistez beaucoup, c'est celui d'armatura. Qu'est-ce que c'est ?
Oui. Alors l'armatura, c'est, je pense, quelque chose qui est fondamental pour comprendre la gladiature. Quand on voit le film que vous avez cité tout à l'heure, Gladiator, qui est un très beau film, un très beau spectacle, mais justement, tout ce qui est pratiquement sur la gladiature est faux dans ce film. Et notamment lorsque le héros, Maximus, dans les coulisses du Colisée, et a devant lui tout un ensemble de casques divers et variés, il n'y en a aucun d'ailleurs qui date de l'Antiquité, et il choisit finalement un peu au petit bonheur la chance le casque qu'il va mettre sur la tête. C'est vraiment la négation de l'armatura. L'armatura, c'est, on peut la traduire, c'est d'ailleurs le terme grec, la panoplie, c'est-à-dire un ensemble d'équipements qui est bien précis, qui peut évoluer avec le temps, mais qui est très stable pendant des longues périodes. L'idée de l'armatura, c'est qu'au début, on a une première armatura, c'est l'armatura des Samnites. Le Samnite, c'est un guerrier contre lequel les Romains ont combattu. Et donc, on va faire combattre des gladiateurs qui ont l'équipement des Samnites. Rapidement, ce ne sera peut-être pas toujours des Samnites, mais ils représenteront le Samnite. Ensuite, on a le Gaulois, ensuite on aura le Thrace. Donc, à chaque fois, des adversaires de Rome qui combattent d'ailleurs entre eux, sous le regard donc des Romains. Donc c'est ce que j'appelle l'armatura, les armaturés ethnique où l'on veut présenter donc un gladiateur qui évoque le barbare vaincu.
Ce barbare vaincu, il est à la fois héroïsé, Éric Tessier, et très déconsidéré. C'est un statut très ambivalent, voire très ambigu, qui accompagne les gladiateurs.
Oui, c'est vraiment, là aussi, un autre problème, je dirais, fondamental de la gladiature, c'est le paradoxe gladiatorien. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois méprisés, certains textes disent qu'ils sont pires que les esclaves, puisque c'est non seulement donc, des esclaves par le statut, mais en plus ce sont des hommes qui se donnent en public, comme on parlerait de femmes publiques, c'est-à-dire des gens qui se donnent en spectacle, quelque chose qui est tout à fait dégradant dans l'acceptation de la civilisation romaine. Mais en même temps, ils sont admirés, admirables, puisqu'ils voient justement la mort en face. Les philosophes, justement, dissertent sur cette question-là, sur le fait qu'ils sont vraiment des sortes de laboratoires vivants, si l'on peut dire, pour la philosophie, puisqu'ils sont tout à fait héroïques dans leur façon d'affronter la mort de la meilleure manière possible et de la manière la plus courageuse possible. Donc il y a toute cette ambivalence entre l'esclave que l'on méprise et le guerrier que l'on admire. Et bon, ils ont beaucoup de succès auprès des femmes, c'est quelque chose qui est connu et acquis, mais même auprès des hommes, puisque c'est vraiment quelque chose d'admirable par rapport à leur courage. Donc il y a vraiment ce paradoxe gladiatorien qui est important à souligner.
Ce qui est aussi remarquable, c'est l'évolution, comme vous l'avez souligné, de cette gladiature, depuis cette proto-gladiature ethnique, avec cette typologie qui, justement, évolue après le choc de la révolte de Spartacus et qui devient, d'après vos termes, Éric Tessier, beaucoup plus technique.
Eh bien, il s'est passé donc ce problème-là, ça semble chronologiquement correspondre à quelque chose. Il y a une révolution gladiatorienne après Spartacus. Je pense que le problème qui s'est posé pour les Romains, c'est de dire qu'on ne peut pas entretenir en permanence des milliers d'esclaves plus ou moins condamnés à mort, avec à leur portée des armes, avec un entraînement systématique, parce que les Romains cherchent justement la qualité du spectacle. Il ne faut pas imaginer des gladiateurs qui sont couards, qu'on pousserait de force dans l'arène, ce n'est pas du tout ça qu'on attend d'eux. Donc le problème de ces gladiateurs qui seraient désespérés, c'est qu'il faudrait donc avoir toute l'armée romaine pour les surveiller. C'est ce qui s'est passé finalement, puisqu'il a fallu pratiquement 2 ans pour venir à bout de la révolte de Spartacus, donc les Romains ne pouvaient pas se le permettre. C'est à ce moment-là qu'on voit évoluer la gladiature pour devenir une gladiature technique. C'est-à-dire que les gladiateurs seront de plus en plus des techniciens et seront de plus en plus aussi des hommes libres qui seront volontairement devenus des gladiateurs. Donc c'est vraiment un choix de carrière, si l'on peut dire. On recherche à la fois cette technicité, on abandonne petit à petit les armaturés ethniques pour ne plus désigner les gladiateurs que sous un vocable ethnique, comme le gaulois, mais sur un vocable technique, comme par exemple « rétière », qui va être élaboré sous Auguste. Le rétière, qui tire son nom de « retta », du filet, c'est le gladiateur le plus fameux. Donc on va l'appeler non pas par rapport à une ethnie, mais par rapport à un élément important de sa technique de combat. On va avoir plus tard aussi le secutor, celui qui poursuit par rapport à un aspect particulier, technique de son combat, qu'on va l'intituler. Tout ça se fait finalement entre César et Auguste, à un moment où l'Empire romain change de nature. On passe de la République à l'Empire, où on a une stabilisation de l'époque augustéenne, de grandes réformes aussi à l'époque d'Auguste, qui passe de la République à l'Empire, et qui va donner ces spectacles qui vont largement dépasser l'Italie et être un élément fondamental de la civilisation romaine à l'époque impériale, que j'appelle l'apogée de la gladiature, l'âge classique aussi de la gladiature, qui devient technique, qui passionne les foules à ce moment-là.
Avec peut-être quelques problèmes pour les dirigeants romains dans ce grand changement impérial, Éric Tessier, c'est que la Pax Romana a pacifié quantité de régions et que par conséquent, la gladiature est une sorte de symbolisation de cette paix tout en étant très violente. Alors comment comprendre le jeu de la violence, le jeu spectaculaire des gladiateurs ?
Le jeu spectaculaire, peut-être qu'on peut l'expliquer aussi par rapport à une société, une civilisation qui est pacifiée, ou plus exactement pour laquelle le fait militaire n'est plus sous les yeux de la plupart des concitoyens, mais l'essentiel de l'armée romaine se retrouve sur les frontières pour protéger cet empire. Pour autant, ce sont des civilisations qui ont toujours finalement un substrat guerrier important, des valeurs guerrières importantes. C'est un peu ce que j'appelle le conservatoire, la gladiature de ces valeurs guerrières originales. Les Romains s'appellent eux-mêmes fils de Mars. Et donc c'est une façon justement de continuer cette tradition guerrière et de la mettre sous les yeux du public. Il faut voir aussi qu'on a souvent limité la gladiature simplement à des combats sanglants et spectaculaires. Je pense qu'il y a aussi toute une gladiature sportive de tous les jours où des gens qui ne sont pas du tout des gladiateurs peuvent s'exercer à la gladiature avec évidemment des glaives mouchetés. Cet aspect-là donc a souvent été négligé. Et aussi, il faut certainement tenir compte de beaucoup de spectacles de gladiateurs qui étaient eux aussi à armes mouchetées. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de ce qui est banal. On va faire une inscription, on va souligner ce qui est exceptionnel. Et ce qui est exceptionnel, justement, ce sont les combats à mort, parce que les combats à mort sont très chers. Ça fait partie du jeu politique au niveau impérial, mais au niveau local, où un notable offre, où l'empereur à Rome offre à ses concitoyens un spectacle extraordinaire où la mort peut éventuellement, dans certains cas, conclure ce combat-là. C'est là-dessus qu'on a essentiellement focalisé, en négligeant tout le reste de l'aspect de l'entraînement sportif, quelque chose qui certainement devait avoir une plus grande importance qu'on peut l'imaginer jusqu'à maintenant.
Et c'est là qu'on va faire intervenir, Éric Tessier, quelques personnages qui accompagnent au quotidien les gladiateurs. Eux-mêmes donc s'entraînent, vous l'avez dit, s'entraînent durement. Ce ne sont pas simplement des bêtes fauves qu'on lâche dans l'arène. Il y a une ritualisation de l'entraînement et du jeu gladiatorien qui est très précis et qui correspond à leur équipement. Équipement reconnaissable ou également évolutif ?
Alors, reconnaissable, oui, au premier coup d'œil, par exemple, on peut distinguer un trace d'un mirmilleur. On va le distinguer par rapport à son casque, on va le distinguer surtout par rapport à son bouclier. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement stables. Le trace, par exemple, va rester stable pratiquement du début du 1er siècle avant jusqu'à la fin de la gladiature. Mais dans le détail, il y a des choses qui peuvent évoluer. On peut le voir, on peut le constater, surtout sur les casques de gladiateurs. Certains nous sont parvenus, ceux de Pompéi. Et on voit qu'il y a vraiment une recherche des gens qui travaillent certainement dans l'entourage des gladiateurs, dans ces écoles de gladiateurs, une recherche pour optimiser, je dirais, la protection faciale, notamment de ces casques. Donc c'est vraiment un laboratoire de techniques de combat, un laboratoire sur ces équipements. Mais il faut malgré tout que ces gladiateurs soient reconnaissables, qu'on puisse bien distinguer chaque armaturé, et chaque armaturin a sa logique propre, qui correspond donc à celle de l'adversaire.
Sont-ils égaux dans le combat, ces gladiateurs de différentes typologies ? Un Thrace avec son casque particulier, un Mirmillon. On a souvent d'ailleurs dans la tête le casque du Mirmillon parce qu'il a de larges rebords et puis il a une grille protectrice sur les oculaires, par exemple. C'est celui qu'on a facilement en tête. Mais il y a le Rétière dont vous parliez. Et puis il y a aussi des combattants à cheval. Ceux-là ont-ils le même statut, la même position ou sont-ils plutôt privilégiés de leur hauteur?
Là aussi, on est dans l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ces combattants à cheval, les équites, font partie finalement d'une caste particulière, un peu intouchable, où ils ne risquent pas la mort. En fait, quand on représente les équites, on les représente souvent en train de s'entretuer, de s'égorger. On les a à terre, parfois baignant dans leur sang. Donc, une chose est certaine, c'est que ces gladiateurs à cheval ne sont pas épargnés. Pour autant, c'est certainement des gladiateurs quand même un peu à part. Par exemple, ce sont pratiquement les seuls qui combattent en tunique. Les autres combattent torse nu, comme des esclaves, tandis qu'eux portent cette tunique. Le fait aussi de combattre à cheval donne une certaine dignité qui est incontestable. Donc on peut imaginer là que ce sont peut-être, on n'a pas l'élément de certitude, mais c'est une probabilité que ces combattants à cheval sont issus justement d'une caste supérieure, parce qu'on a souvent justement des lois qui interdisent aux sénateurs et à leurs enfants de combattre comme gladiateurs. On répète ces lois, donc ça prouve bien qu'elles ne sont pas suivies. Donc on a peut-être donc des gens qui sont d'une certaine aisance, qui ont embrassé la carrière gladiatorienne, qui combattent à cheval parce que justement, ils ont la capacité d'être des cavaliers, ils l'ont appris peut-être dès l'enfance, mais pour autant, ils ne vont pas être épargnés, donc ils peuvent aller donc jusqu'à la mort, dans certains cas, comme les autres gladiateurs. Le but du jeu, justement, c'est qu'il y ait un équilibre entre les combattants. Il ne faut pas qu'on se dise bah, « le rétière a aucune chance puisqu'il est moins bien protégé ». Là, l'expérimentation a bien démontré que ce gladiateur qui semble dépouillé est en fait un grand technicien et qu'il y a un équilibre qui est toujours recherché entre les adversaires.
Oui, parce qu'il faut que le spectacle continue. C'est aussi le mot d'ordre du jeu gladiatorien.
Absolument. Il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait justement un spectacle, il faut que les gens se passionnent pour tel ou tel type de gladiateur. Il faut imaginer des équipes de supporters par rapport à un type de gladiateur. On sait qu'au 1er siècle, il y a des Romains qui sont passionnés par les petits boucliers, donc par les thraces, qu'en face d'eux, il y a des Romains qui sont passionnés par les grands boucliers, donc par les myrmillons. Et tout ça constitue un enjeu où on se passionne en fait par rapport à la technique qui est développée par tel ou tel gladiateur. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un équilibre, que c'est à la fois affronter donc les contraires, le petit contre le grand bouclier, le rétiaire qui est dénudé face au sécutor qui est beaucoup mieux protégé, pour maintenir le spectacle et maintenir l'envie du public, quelque chose qui forcément devait se renouveler puisque ça a duré quand même pendant très longtemps.
Donc cela veut dire, Éric Tessier, que la mort n'est pas le but du combat singulier.
C'est pas forcément donc le but. La mort est un élément important. Ce qui est le plus important, finalement, au-delà de la mort, c'est le choix de la mort ou de la vie. Ça, c'est quelque chose qui a complètement été occulté par le cinéma. D'abord, les combattants sont toujours accompagnés par des arbitres. Il y a deux arbitres. C'est pas tellement pour interdire telle ou telle passe qui serait jugée comme illicite, mais en fait pour constater, avec deux regards différents, que les gladiateurs s'engagent véritablement à fond, qui ne font pas semblant, mais qui vraiment s'affrontent jusqu'au bout. Ensuite, l'idée, c'est de ne pas tuer son adversaire pendant le combat, ça frustrerait le public. L'intérêt, c'est de soumettre l'adversaire, lui faire reconnaître qu'il a perdu, et ensuite au public de choisir si c'est la mort ou le renvoi vivant. Et donc, c'est en fait ça, surtout que le public recherche, ce sentiment qu'il peut avoir d'influer sur la vie d'un combattant qui demande sa grâce, tout en ayant reconnu donc qu'il a perdu le combat par épuisement ou par blessure.
Et ce public romain, qu'il appartienne à la plèbe ou aux élites, même à l'empereur, car les empereurs aimaient beaucoup les jeux gladiatoriens, Éric Tessier, il nous faut vraiment le faire intervenir comme acteur principal de ces joutes. Ce public n'est pas si éloigné de celui qui s'enflamme pour un heureux foot, pour un grand match, ou tout autre spectacle qui mobilise une grande énergie collective.
Absolument, il faut voir aussi qu'il y a un caractère unificateur dans la gladiature, puisque exactement comme le football aujourd'hui, tout le monde, toutes les catégories sociales peuvent se passionner pour ce sport, puisque ça en est un. On a des esclaves qui se passionnent pour les gladiateurs, on a l'empereur qui se passionne pour les gladiateurs, et entre les deux, on a toute la société. C'est un peu, pour prendre une comparaison actuelle, un peu comme lorsqu'on a un chef d'État qui vient pour une finale de foot et qui porte autour du cou l'écharpe de son équipe. Il y a une façon de finalement de s'identifier au pouvoir, aux élites, qui jouent un rôle politique aujourd'hui, comme ils jouaient un rôle politique à l'époque. C'est un peu un moment finalement où la société romaine se retrouve unifiée dans cette arène, donc dans cet amphithéâtre qui est assez symbolique, où on a une représentation de la société avec ses hiérarchies, avec les élites qui sont dans les meilleurs gradins, et on descend finalement dans les échelons de la société au fur et à mesure qu'on monte les gradins. Ça ne doit pas occulter évidemment ce qui se passe sur la piste, sur le sable de l'arène, mais c'est un aspect social très important qu'il faut vraiment prendre en compte.
Et qui s'est perdu, on le disait au tout début, vers les 4e ou début du 5e siècle de notre ère, quand la gladiature disparaît pour des motifs que vous estimez plus économiques que moraux, malgré le jugement des chrétiens sur ces jeux gladiatoriens.
Absolument. Mais les chrétiens donc condamnent uniformément tous les spectacles. Ils vont condamner les courses de chars, le théâtre, comme ils condamnent la gladiature. Quelque chose aussi qui est important, c'est qu'ils ne plaignent jamais le gladiateur. Ils plaignent surtout le spectateur qui va se souiller, qui va souiller son âme en regardant un spectacle qui, comme tous les spectacles aux yeux des chrétiens, est dégradant. La réalité, c'est que les courses de chars, par exemple, les courses dans le cirque, vont perdurer bien après la fin de la gladiature. La caractéristique de la gladiature que j'appelle technique, au moins de l'âge classique de la gladiature, c'est qu'elle demande énormément d'argent. Il faut investir sur des hommes qui sont parfois des esclaves, mais même des esclaves qui ont envie de faire ce métier-là, ou des hommes libres qui acceptent le temps de leur contrat d'avoir le statut quasiment d'esclave. Et donc, eux, il faut miser sur eux, les entraîner avec, comme pour les chevaux de course, sur 10 chevaux, on n'aura pas toujours un vainqueur de grand prix. Ça coûte très cher, c'est vraiment investir du temps, de l'argent. Il y a beaucoup de monde, comme vous l'avez dit, autour des gladiateurs, des entraîneurs notamment, puis toute une petite société qui gravite autour d'eux. Et tout ça avec la crise du IIIe siècle après Jésus-Christ, on n'a plus ou de moins en moins les moyens d'y recourir. Donc on voit cette évolution de la gladiature qui se brutalise, on voit un retour finalement sur les origines, où de plus en plus la mort devient quasi systématique, autant qu'on peut donc en juger par rapport à des sources qui deviennent de moins en moins nombreuses. On a donc cette image de cette gladiature décadente, dégradée, on peut dire, qui est celle que verront les chrétiens et qui vont condamner cette gladiature-là. Et elle disparaît quasiment de sa belle mort, faute de combattants, ben parce que l'enjeu devient moins intéressant, parce que les villes se rétractent. C'est vraiment un sport, on va dire, urbain, donc la gladiature. Et à l'époque donc, où les villes qui sont les premières à souffrir de la crise, des invasions, les amphithéâtres, par exemple, sont souvent utilisés comme quartiers d'habitation protégés. Donc la gladiature disparaît, faute de combattants, faute d'amateurs, faute de sponsors, et faute aussi peut-être de lieux pour la mettre en scène. Je pense que c'est beaucoup plus important, cette disparition pour raisons économiques de la gladiature, que les raisons morales, que les condamnations des chrétiens.
Et c'est cette dernière image d'une gladiature barbarisée, donc beaucoup moins technique que celle des premiers siècles de l'Empire, Éric Tessier, qui a dominé, qui a imprégné les représentations, notamment chez les peintres-pompiers, et qui nous égare sur cette institution qui a duré si longtemps.
Oui, tout à fait, puisque donc les peintres-pompiers ont été influencés culturellement par les écrits des chrétiens. Les peintres-pompiers, justement, c'est ces deux que viennent finalement la plupart des clichés, notamment le peintre Jérôme, qui a fait un fameux tableau de Vice Verso, qui a inspiré d'ailleurs à l'origine le film Gladiator. Et cette vision-là d'une gladiature brutale et sans règles, sans forme, cette vision aussi d'un public qui ne demande qu'une chose, c'est la mort des gladiateurs, va beaucoup influencer notre vision, par le biais ensuite du péplum, du film donc historique, d'abord italien d'ailleurs, et ensuite très vite américain, avec un ensemble de clichés qui éloigne vraiment de la réalité de la gladiature à cette période-là, du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ.
Et c'est ce qui vous fait dire que la mort des gladiateurs a peu d'importance, mais elle n'a pas de prix.
Oui, elle n'a pas de prix, parce que quelque part, donc, on est prêt d'abord à investir beaucoup sur ces hommes, parce qu'ils vont parfois peut-être lancer des carrières politiques, parce que la popularité d'un homme politique localement va peut-être souvent se fonder sur un beau spectacle, un beau munus qu'il a offert. Donc ça, effectivement, ce sont des hommes qui ont peu d'importance. Il faut aussi voir que la société à cette époque-là est assez violente, qu'on a assez peu de chances de mourir dans son lit à plus de 80 ans. Le prix de la vie humaine n'est pas exactement le même que pour nous. Mais ça n'a pas de prix parce que justement, c'est un liant, c'est un ciment important de la société romaine.
La mort en face, le dossier gladiateur, c'est le titre de l'ouvrage d'Éric Tessier paru aux éditions Actes Sud. Un entretien proposé par Christian Tioca avec Alain Perrottet, Laurence Chave et Annick Chouin. À demain. Demain, Nicole Duparc sera en compagnie de Jean-Claude Guibaud. Merci de nous être fidèles. Vous retrouvez l'équipe des temps qui courent tous les jours de la semaine à 8h30 et en nouvelle diffusion à 19h30. Vous pouvez commander les CD de nos émissions au 026 323 24 24. Vous pouvez également nous écouter sur internet lestempsquicourent.rsr.ch ou encore télécharger les entretiens qui vous intéressent.
Espace 2.
L'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la géopolitique et les sciences, c'est tous les jours dans les temps qui courent sur Espace 2 à 8h30 et à 19h30.